Karl Bélanger analyse l'actualité de l'Outaouais au 1047 Outaouais. Voici Daniel Evans.
En compagnie de notre analyste politique, bonjour Karl Bélanger.
Bonjour Daniel.
Le sujet du jour, tout le monde va en parler, en tout cas on en parle aux nouvelles, puis on va en parler à la télé. Et t'en parles toi aussi, ce fameux masque obligatoire dans le transport en commun.
Oui, transport en commun. Écoutez, ça fait longtemps qu'on en parle du masque obligatoire, et même je te dirais que la question que je me pose à ce moment-ci, c'est pourquoi ça a pris tant de temps avant qu'on impose des mesures, qu'on impose le masque obligatoire dans certains endroits. À Ottawa, c'est déjà le cas. Hein? Dans son transport, t'es censé porter le masque. Les rapports sont que les gens le font, qu'ils apportent leur propre masque. Aussi, transport en distribue quand même quelques centaines par jour, mais l'habitude a commencé à être prise à Ottawa. Le Québec va aller de l'avant aujourd'hui. C'est une bonne chose, mais pourquoi arrêter là? Arrêtez là.
Mais tu poses la question, pourquoi on n'a pas fait ça avant? Mais tu sais qu'on est quand même influencé par ceux qui nous dirigent hein, souvent. Et tu te souviens qu'au début, le docteur Arruda n'était pas pour le masque.
Mais absolument, il y a eu au début de la part des autorités de santé publique, que ce soit Dr Arruda, que ce soit Dr Tam au fédéral ou autre autorité de santé publique à travers le pays, on disait que le masque ne protégeait pas les personnes d'une part, c'était fait pour protéger les autres, ce qui est probablement effectivement le cas. Les protections pour soi, faut vraiment porter son masque sans le toucher, sans l'ajuster, être très prudent avec ça. Donc, ça peut donner une fausse perception de sécurité, sauf que, écoute, je vais te donner un exemple. Hong Kong. À Hong Kong, lorsqu'il y a eu le début de la pandémie, on n'a pas eu besoin de demander aux gens de porter les masques. Non, non. 95% de la population s'est mis à porter le masque immédiatement.
On s'attendait peut-être à ça ici aussi, là.
Ben, bon, je pense qu'on n'a pas la culture et l'habitude. Et d'ailleurs, les autorités disaient que porter le masque, c'était pas recommandé. Au contraire, fallait pas le porter, etc. Mais là-bas, on l'a porté immédiatement. Et à Hong Kong, on a eu comme 6 décès. Hong Kong, c'est une ville qui est à côté de la Chine, là, qui est collée, qui a 10 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi? Mais c'est parce qu'à Hong Kong, les gens, systématiquement, lorsqu'ils sortaient dehors, portaient le masque. Mais ici, on a de la difficulté à dire, à édicter une règle claire par rapport au masque. Hein? Pourquoi on ne le porte pas obligatoirement dans les commerces?
Ça peut prendre 21 jours à créer une habitude. Peut-être que là, on va la créer, l'habitude.
Oui, on va créer l'habitude, sauf que le monde, il commence à penser que c'est fini. Tu comprends?
Ouais, c'est ça.
L'habitude, fallait la créer lorsque la crise était à son plus haut niveau, lorsqu'on disait aux gens, vous pouvez sortir, mais respecter la distanciation sociale, etc. C'est bien beau. Mais l'habitude, là, je veux dire, quand on avait des bilans de centaines de morts par jour, on aurait pu l'imposer, cette mesure. On attend maintenant, alors que, aucun cas, deux cas, trois. Alors, tu vois, le sentiment d'urgence n'est pas là.
Je pense qu'il commence à drôlement l'être, là. En ce moment. Ben, écoute, on l'oblige. On parle d'une deuxième vague qui s'en vient. On a toujours le bilan de ce qui se passe un moment donné. On dévore le bilan pendant une fois par semaine. On est revenu à un bilan quotidien. Alors, je pense qu'on commence
ça. C'était un beau volte-face de la part du gouvernement. Tout à leur honneur de reconnaître leur erreur. Mais écoute, pourquoi s'arrêter au transport en commun? Pourquoi pas tous les commerces? Pourquoi pas le demander, pas le recommander? L'obliger. Lorsque les gens sortent de la maison pour aller dans un autre endroit public intérieur. Je dis pas aux gens d'aller le porter lorsqu'ils vont faire une promenade dans le parc de la Gatineau. C'est pas ça que je dis. Mais si on entre dans un commerce, premièrement, le personnel devrait le porter, mais les clients aussi. C'est pour la protection de l'un et de l'autre. Et les autorités publiques, parce qu'ils ont pas voulu agir rapidement, mais ils ont pas créé cette habitude et ça donne les résultats que ça a donné. Je parlais d'Hong Kong tantôt. Tu sais, à New York, une ville à peu près la même grosseur qu'Hong Kong, on est rendu quoi? 30 000 morts du coronavirus. Ouais. Personne porte le masque là-bas. Là. C'était pas une habitude. Puis c'est encore difficile. D'ailleurs, le gouverneur Andrew Cuomo qui a demandé à Donald Trump d'obliger le port du masque pour lui l'aider à forcer les résidents à le faire.
Que Trump le porte lui-même pour donner l'exemple. C'est quand même le président américain. Là.
Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, Donald Trump, à se ranger là-dedans. Ouais. Rappelle-toi, au début de la pandémie, il allait se promener dans des usines. Non seulement il ne portait pas de masque alors que les gens autour de lui portaient. Il serrait des mains. il niait l'existence même du virus, le traitait comme si c'était juste une fausse nouvelle, une fake news. Ben là, on a le bilan aux États-Unis qu'on a et ben on est à quoi 22 jours de l'ouverture de la frontière avec les États-Unis.
Oui. J'ai l'impression que ça va te repousser, moi, d'après moi.
Ben,
ça va
je pense que tu as raison, effectivement. Ouais.
Mais tu disais tantôt que le port du masque, dans le fond, c'est pour protéger les autres. Je peux te dire que quand tu vas dans des magasins à grande surface ou même dans le transport en commun, tu penses aussi de te protéger, veux pas, parce qu'il y en a qui sont drôlement proches et qui ça leur dérange pas trop. Alors, je pense que le masque va aller dans les deux sens.
Il y a des gens qui n'ont pas conscience de l'espace physique puis qui ont 2 mètres pas mal, je dirais, élastiques, mais dans le mauvais sens.
Ils ont 2 mètres plus que, ils ont plus 2 pieds que 2 mètres.
Ouais, 2 pieds, puis des fois, on est dans le 2 cm, là.
Ah, ça commence à faire peur. Ouais, ben là, on est rendu drôlement intime, rendu là, par exemple.
Ben oui, c'est sûr. Ben écoute, on est dans certains commerces, là, on va se le dire. Certains commerces, les allées sont tellement serrées que si tu croises quelqu'un,
il y a
des gens qui respectent. Oui, mais il y a des gens qui respectent pas les lignes, puis il n'y a pas de police de la ligne, là. Il n'y a personne qui se promène en se disant, mais là, vous êtes dans le mauvais sens, voici un constat d'infraction. Ça se fait pas. Les gens se promènent comme ils veulent, selon leurs besoins, lorsqu'ils font leurs emplettes, et c'est des habitudes qu'on a. C'est
comme de voir dans un Walmart avec une police de ligne, ça serait assez particulier.
On Effectivement.
Itinérance, on parle d'une sortie virulente de François Roy contre Maxime Pedneau-Jobin.
Oui, François Roy qui est le coordonnateur de Logement Occupe et qui il va pas de main morte ce matin dans le droit, là, une lettre d'opinion. Il faut dire le contexte qu'on connaît présentement à Gatineau. Demain, c'est le 1er juillet. On va avoir une crise du logement, mais pas aussi pénible qu'elle l'a été dans le passé, notamment l'an dernier. Hein, l'Office d'habitation de l'Outaouais qui dit qu'on a seulement 9 familles présentement qui sont en situation d'urgence. Alors, c'est beaucoup moins que l'an passé. Mais il y a quand même une hausse de l'itinérance et il y a quand même un spin positif par rapport à la situation et François Roy là, qui dit ben écoutez là, on a un phénomène majeur ici à Gatineau, c'est-à-dire que les prix sont en hausse qui met une pression sur l'itinérance, évidemment, parce que lorsqu'un ménage sur 4 dépense au-delà de 50% de son revenu pour se loger, ben ça commence à faire beaucoup d'argent et on le voit, là, l'augmentation d'itinérance, on le voit les problèmes que ça a causé. On voit évidemment, il y a une chronique aussi, écoute, faut que je le mentionne, notre Denis Graton qui parle d'une situation aberrante, c'est-à-dire des itinérants qui louent, dans le Vieux-Hall notamment, des cabanons à 100$, 150$, 200$ par mois et c'est là qu'ils restent, c'est leur logement, un cabanon.
Ouais.
Tu sais, c'est une situation difficile.
On parlera pas trop fort, il y en a qui vont vouloir louer leur cabanon.
Oui. Ben écoute, en même temps, je veux dire, Denis Graton l'explique bien là, ce matin, les gens, les itinérants veulent avoir un endroit plus ou moins permanent. Le problème avec les refuges comme le Gitami, c'est que tu peux pas rester là en permanence. Tu dois quitter après un certain nombre de jours et évidemment, tu dois transporter tes effets, le peu que tu as avec toi et bon, ça devient vraiment une situation difficile. Ceci dit, François Roy, sortie virulente donc contre Maxime Pedneau-Jobin, parle notamment que la moyenne annuelle de projets de logements abordables dans la ville était de 70 entre 2002 et 2020, mais que sous Pedneau-Jobin, on est à 62 seulement depuis le 3 novembre 2013. Donc, une baisse par rapport à la moyenne au cours des 20 dernières années.
Mais s'il y en a moins, c'est parce que... Est-ce qu'il y a pris cette décision-là parce qu'il y avait moins d'itinérants ou c'est simplement qu'on fait des coupures?
Ben non, mais c'est une très bonne question, mais en fait, une question de volonté politique, tu sais, et je pense qu'au niveau du discours et des promesses de Maxime Pedneau-Jobin et de son administration, on sent vraiment qu'on a de l'empathie envers la situation. Dans la politique d'habitation de la ville, qui dit qu'on va travailler avec les organismes communautaires, puis qu'on va continuer de faire des logements, mais selon François Roy, il y a un écart majeur entre le discours et les actions, et ça se ça se prouve par le manque de logements abordables sur le territoire. Là, il y a eu une bonne nouvelle. Il y en a une quarantaine qui ouvre sur le plateau demain. Mais c'est quand même difficile, tu sais, la construction. Et Gatineau n'est pas seul dans ce cas-là.
Non,
Gatineau, c'est un problème à Montréal, c'est un problème à Québec, à
Ottawa, ailleurs.
C'est
un problème mondial. C'est partout.
C'est un problème mondial, mais ça commence surtout par le manque de logis disponibles à des coûts soit abordable ou du logement social carrément. Et on peut pas continuer de se fier sur les refuges pour s'occuper de ces gens-là. Et faut mettre en place les conditions pour que les gens puissent atteindre soit un loyer, soit la propriété. D'ailleurs, demain, la SCHL au fédéral qui va resserrer les critères d'admissibilité à la propriété. Alors, c'est tout un casse-tête comme ça auquel il faut penser à la veille du 1er juillet parce qu'évidemment, les gens présentement qui sont en recherche de logement, ben, c'est un gros problème pour les individus présentement. Les familles, c'est un stress supplémentaire. La crise est moins pire que l'année passée. On a comme étalé dans le temps à cause de la COVID-19 la recherche de logement et les déménagements, ce qui est une bonne chose. Et peut-être qu'une des solutions à long terme pour les crises de logement abordables là, ou à tout moins les crises de logement de la disponibilité, c'est de changer cette habitude qu'on a au Québec de tout le monde déménager le 1er juillet.
Mais je pense que c'est plus fort dans la région montréalaise que dans l'Outaouais.
C'est vrai que c'est plus fort à Montréal et ailleurs, mais quand même.
On est les seuls, hein? On est les seuls dans le monde à faire ça.
Les gens du reste du Canada ne comprennent pas cette habitude. Eux autres, évidemment, sont occupés plus à fêter la fête du Canada. Nous autres, c'est la fête des déménageurs. Mais quand même, c'est une problématique, je pense, qui est amplifiée. C'est sûr que déménager un 1er janvier, c'est plus difficile.
Pas évident. Et de toute façon aussi, faut pas oublier que les pizzerias font des chiffres faramineux, vendent beaucoup de pizzas. Alors, les affaires d'or.
C'est ça. Un classique.
Oui, absolument. Ceux qui profitaient de données limitées à Internet, c'est la fin?
Oui, c'est la fin. Mais j'ai reçu un courriel, moi, de Vidéotron, cette semaine, qui disait que l'accès aux données illimitées pour Internet là, qui a été accordé par la plupart des compagnies, dont Vidéotron, Rogers, TELUS, nomme-les, à la mi-mars, ben ça prend fin cette semaine, ça prend fin demain, on revient à la normale. Et là, ben la problématique que ça cause, c'est que les gens ont pris des habitudes, on est encore confinés, il y a beaucoup de télétravail, et la consommation Internet, les habitudes de consommation ont augmenté de manière considérable. Et là, j'ai un peu peur, moi, que les gens se retrouvent dans la situation suivante, Daniel, c'est-à-dire, on est habitué à consommer X nombre de données, et on ne changera pas nos habitudes, et là, ces compagnies-là vont pouvoir charger les frais supplémentaires. Et donc, faudra que les gens fassent attention à leur consommation, surveillent leur consommation pour pas tomber dans le piège, d'une part. D'autre part, les employeurs qui demandent à leurs employés, évidemment, de travailler à domicile, est-ce qu'on devra leur demander une subvention ou des argents supplémentaires pour payer pour cette infrastructure que les familles doivent payer pour pouvoir continuer de travailler?
Moi, je pense que c'est pas nécessaire parce que l'essence que tu économises, là, juste à pas te déplacer là, et tu travailles de la maison, je pense que tu peux amplement payer ton forfait Internet illimité sans difficulté à ce moment-là.
Il y a des cas particuliers pour tous et chacun, évidemment. Il y a des gens qui marchent au travail. Alors, tu sais, cette logique-là s'applique pas pour ceux qui, effectivement, font 50 km par jour dans le trafic. C'est autre chose. On s'entend. Il y a des cas particuliers. Mais ceci dit, lorsqu'on parle de télétravail, on demande aux gens de payer pour accéder à leur propre travail. La logique s'applique pour l'essence, mais quand même, au niveau de la consommation Internet, lorsqu'on parle de faire, je sais pas moi, 3 vidéoconférences par jour, ça gruge dans ton bilan de données rapidement.
Alors, ça se négocie quand même avec ton patron quand vient le temps d'avoir négocié ta nouvelle paye, ton nouveau salaire. On va le faire comme ça.
Ben oui, ça se négocie, tout se négocie, évidemment.
Absolument.
Et on peut pas blâmer les compagnies Internet de revenir à la normale parce que eux autres aussi, évidemment, ils ont eu des baisses de revenus à cause de cela. Ceci dit, j'espère qu'ils seront en mesure de donner des alertes aux usagers là, et de montrer un peu de flexibilité.
Absolument.
Parce que moi, je suis allé voir sur mon compte Vidéotron, je ne sais même pas ce qu'était ma consommation parce que Vidéotron a tout mis à zéro. Tu comprends? Ah, ah. C'est du zéro partout. Fait que ouais, je sais pas ce que j'ai consommé.
Ils t'ont donné un cadeau. Oui, ils t'ont fait un cadeau. C'est on regarde gratuit, pas le prix dans ce temps-là, c'est sûr. Hey, c'est-tu quoi? Carl, tu fais tellement du bon travail que demain, on fait relâche, on te donne congé.
Eh, pas vrai, pas un congé.
Ouais, un congé pour
la
toi
fête
demain.
Du Canada.
Mais on se retrouve après-demain, par exemple.
Absolument, Daniel.
Merci, Carl.
Salut.